Radio Campus Tours.
C'est France Inter ?
C'est Radio Campus.
Qu'est-ce que c'est ?
Radio Campus.
Radio Campus Tours.
Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Nous sommes des étudiants en première année de carrière sociale et dans le cadre d'un exercice universitaire, nous avons eu la chance de rencontrer Frédéric Thomas, de faire un entretien avec lui. C'est un ancien étudiant du DUT carrière sociale à l'IUT de Tours-Nord, qui aujourd'hui est inspecteur général de l'éducation nationale.
Inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche.
Frédéric Thomas a un parcours à la fois marqué par l'engagement politique, la fidélité à ses valeurs et une volonté constante de rester proche des citoyens. À travers son témoignage, on découvre l'histoire d'un homme qui, parti d'un milieu populaire, s'est construit peu à peu à la force de son travail, de ses convictions et de ses rencontres. Dans cet échange, nous avons pu aborder différents points, notamment la manière dont ces années en DUT ont ouvert son regard sur le monde. On va vous faire écouter un petit peu les échanges que nous avons eus.
Radio Campus Tours.com.
DUT, du coup, carrière sociale, enfin, qu'est-ce qu'il a pu vous apporter dans votre carrière actuelle ?
Enfin, ces deux années ont été une forme d'ouverture culturelle au monde, aux sciences, aux disciplines fondamentales. Je le disais tout à l'heure, le droit, la comptabilité, mais par dire la sociologie, la psychologie, et je dirais même la culture au sens large, l'histoire de l'art. Et je crois que ces deux années m'ont permis effectivement de toucher à toutes ces disciplines et de pouvoir ensuite, y compris dans les apports méthodologiques, le travail, la rigueur d'un travail, d'une production universitaire, la rigueur, la découverte du monde professionnel. J'ai découvert tout ce qui concerne, on parle aujourd'hui du secteur du handicap. J'ai fait mes stages dans le secteur du handicap avec les exigences professionnelles. Tout ce qui concerne la vie sociale. Et notamment, un des aspects auxquels vous êtes confrontés, le travail en équipe. C'est-à-dire, voilà, comment on se répartit les tâches. Moi, franchement, j'en garde un souvenir ému. Hein. Nous, on avait ce qu'on appelle une réalisation documentaire. On était 7. Avant de rendre le rapport, on a fini à 2 à écrire un rapport toute la nuit. Quoi. Voilà, c'est ça.
C'est pas vrai.
Ah, si, c'est vrai.
C'est vrai. Hein, bon.
Toutes ces expériences-là, je vous dis, voilà, je pense que le travail d'équipe, il y a ce qui est produit, il y a le résultat qui est produit, puis tout ce que ça peut vous apporter, parce qu'ensuite, quand vous êtes en situation de management d'une équipe, de mobiliser une équipe, eh ben, ces expériences-là vous servent. Parce que mon souci, ensuite, dans le futur, c'est d'essayer de mobiliser tout le monde, même ceux qui n'ont pas envie de s'engager ou qui n'ont pas envie de travailler.
Et voilà.
OK.
J'ai toujours eu ce souci-là. Et je pense que toutes ces expériences, bien sûr, pas qu'à l'UT, mais que j'ai pu avoir, ça m'a servi à mon parcours professionnel et à mon parcours politique. Ça, c'est une chose évidente.
Ok, donc si je vous demandais ce que vous gardez comme souvenir de votre passage à l'IUT et à un moment ou une personne qui vous a marqué.
Je pourrais citer beaucoup d'exemples. J'avais choisi comme mémoire professionnelle la municipalisation de l'activité culturelle. On était à l'époque, finalement, les collectivités locales s'appropriaient la culture ou tout ce qui était du champ socio-éducatif comme un affichage de leur politique. Et donc j'avais fait un mémoire assez technique avec Henri Lutte. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui voulaient être avec Henri Lutte parce que c'était du droit, c'était un poster, mais pour voir comment concrètement ça se passait, etc. Et donc la veille, quand je présente... Puis à l'époque, on n'avait pas de traitement de texte, hein, c'était une machine à écrire. Donc je ne vous dis pas le temps qu'on passait à présenter ce mémoire. J'étais transi de peur quand je suis arrivé devant le jury. Et la psychologue qui faisait partie du jury, elle prend la parole, elle dit comme ça, écoute Frédéric, j'ai jamais rien compris au droit, mais elle dit dans ton rapport, j'ai compris quelque chose. Franchement, la soutenance s'est passée d'une meilleure façon. Pour vous dire que finalement, parfois les angoisses et les exigences qu'on peut avoir, placées toujours, et ça a été un peu le conducteur finalement de ma vie, jamais se satisfaire de ce qu'on fait, essayer de pousser tout le temps les exigences. Et quelles que soient les fonctions que j'ai exercées, eh bien, ça m'a amené à essayer de pousser ces exigences. Et je pense que les acquis méthodologiques que vous pouvez acquérir, vous avez pu acquérir au lycée et que vous allez pouvoir acquérir ici, c'est fondamental pour votre parcours. Et la question du travail et de la rigueur, si vous arrivez à conjuguer ces deux éléments, eh bien, en principe, ça fonctionne.
Votre expérience politique, du coup, vous sert toujours actuellement dans ce que vous faites. Enfin, ça a toujours un peu un lien.
Alors, je dirais, c'est sur le plan déontologique, c'est séparé. Moi, je suis aujourd'hui, je ne fais plus de politique. Rien n'empêche dans le statut de la haute fonction publique d'être aux fonctionnaires et puis de faire de la politique. Mais moi, j'ai considéré que c'était bien tranché. Maintenant, je ne fais plus de politique de manière publique. Individuellement, j'adhère toujours dans l'organisation où je suis, mais à titre personnel. Je fais de l'évaluation de politique publique aujourd'hui, de l'évaluation de public, et je travaille sur des thématiques qui ont été liées à mes responsabilités, notamment dans le champ de la protection de l'enfance. J'ai fait 4 missions importantes sur la protection de l'enfance avec d'autres inspections. Je travaille actuellement sur les relations avec les États, collectivités territoriales. Donc, si vous voulez, ça a un lien avec mes compétences que j'ai acquises en tant qu'élu. Je travaille aussi sur des questions. J'ai fait une mission sur le plan mercredi aussi avec les collègues de jeunesse, sport et vie associative, puisque c'est une inspection qui... Donc ça a toujours un lien avec une méthodologie particulière. Et là, vous savez, les devoirs du haut fonctionnaire, c'est l'impartialité, la neutralité. Et j'essaie d'évaluer les politiques publiques avec cette rigueur-là. Et puis en même temps, ça rejoint au travail que j'aime bien, c'est-à-dire faire de la prospective, faire des recommandations, échanger en équipe pour essayer de conseiller le gouvernement sur un certain nombre de sujets, sur des sujets qui sont dans le champ de l'éducation, mais aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup, la question de la scolarisation des enfants, de l'aide sociale à l'enfance, qui est pour moi un grand sujet. Les questions sociales, c'est des questions qui m'intéressent toujours beaucoup parce que je pense que, y compris dans ce... C'est pas une compétence directe, bien sûr, du ministère de l'Éducation nationale, mais la scolarisation de ces enfants pose des problématiques particulières puisque c'est des enfants qui ont des besoins particuliers. C'est reconnu par la Charte des besoins de l'enfant en réalité.
Okay. Avec toute votre expérience... qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui souhaite s'engager politiquement et notamment, quel piège il faudrait éviter ?
D'abord, il faut s'engager. Et qu'il n'y a pas que l'engagement politique qui compte. Il y a l'engagement politique, bien sûr, mais il y a l'engagement citoyen, peut y avoir... Et d'ailleurs, je pense que la jeunesse, dans sa diversité, elle s'investit dans beaucoup d'engagements. Elle a été peut-être moins la politique qu'avant, parce que finalement, c'est plus difficile de trouver une identité ou une organisation qui corresponde à son mode de pensée. Et j'aurais tendance à dire que moi, si on m'avait posé la question à 20 ans, j'aurais dit, mais moi, j'ai envie d'être libre de penser, d'être autonome. Par contre, j'adhère à une pensée, la pensée socialiste, réformatrice. J'aurais pu te dire ça. Il faut se construire une pensée une pensée, d'abord s'intéresser à la vie politique, hein, avoir des prises de position sur des sujets, avoir des convictions sur des sujets. Et aujourd'hui, y a beaucoup d'enjeux, on peut avoir des convictions. Et puis après, trouver, bah, vous savez, c'est aussi les opportunités, les rencontres qui font que vous avez à un moment donné de s'engager. Je pense qu'il faut le faire avec conviction, mais aussi avec, je dirais presque, voilà, faut être prêt à accepter, à faire des concessions, à discuter. Voilà, c'est-à-dire faut pas le faire de manière, pleine et entière, parce que dans ce cas-là, dans une organisation, vous avez toujours un minimum de concessions à faire, mais surtout ne jamais renoncer à ce qui, à son idéal en réalité, à ce qu'on, à ce, à le fond, au fondement de sa pensée, quoi. Voilà, je sais pas si je suis clair, mais
si.
C'est, il faut, mais s'engager, ça, c'est sûr que. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui font des césures. Hein. Moi, j'en ai rencontré quelques-uns quand je suis intervenu à l'UT. Je pense que c'est bien aussi de pouvoir vivre des expériences comme ça d'engagement personnel.
Avez-vous déjà fait face à des personnes qui n'étaient pas du tout en accord avec vous ?
Oui, oui, bien sûr. C'est arrivé, ouais. C'est arrivé même que je prenne des décisions favorables à des gens qui n'étaient avec qui n'étaient pas en accord avec moi et qui, pour cette raison-là, n'ont pas voté des délibérations que j'avais décidées, en quelque sorte. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire des opposants politiques, on a pris des mesures favorables à des situations et pour les divergences politiques qu'on avait, ne les ont pas votées. Voilà. Ça pouvait arriver. Ouais.
Vous avez dit que vous avez toujours essayé d'intéresser et de faire participer même les gens qui ne le veulent pas. Est-ce que vous avez des techniques pour faire ça ?
Ah oui. Bah déjà, les placer devant leurs responsabilités. Hein. C'est-à-dire partager le travail, essayer, je dirais même... J'ai toujours été dans les organisations où j'ai été, où j'ai travaillé. On me confiait toujours ses responsabilités. Enfin, toujours ses responsabilités. D'abord, il ne faut jamais désespérer que les gens, à un moment donné, puissent évoluer. Il faut avoir confiance en l'individu. Et puis, en même temps, il faut les associer au maximum, voire à un moment donné... S'ils ont fait un peu quelque chose, eh bien, vous terminez le travail. Vous terminez le travail vous-même, quoi. C'est-à-dire, vous êtes parfois obligé de faire à leur place. Mais il faut qu'ils se sentent associés un minimum pour pouvoir essayer d'être contributif de quelque chose. Est-ce que j'ai des techniques je pense que je n'ai pas de technique particulière, mais j'ai la volonté, en tout cas.
Comment les jeunes peuvent s'intéresser à la politique, simplement ?
La politique, c'est la vie de tous les jours, hein, en réalité. Hein. Vous pouvez avoir un point de vue... c'est-à-dire se forger un point de vue sur des sujets. Y a un gros sujet, la question de l'environnement, la question de l'écologie. Par exemple, c'est intéressant de voir la ville de Tours, l'évolution, la place du vélo dans la ville. Y a des questions... Il y a la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, quand j'avais des élèves en classe, je leur disais, mais premier cours que je faisais sur la citoyenneté, vous êtes chez vous le matin, vous vous levez, vous prenez votre petit déjeuner, vous êtes dans l'espace privé. Vous en sortez, vous sortez de chez vous, ou alors, pas forcément un espace, ils sont un espace privé, mais qui peut... Ils ne sont pas forcément propriétaires. Enfin, bon, je passe ces détails. Vous sortez de chez vous, vous êtes sur le trottoir. Ah, le trottoir, qui c'est qui entretient le trottoir ? Alors là, je faisais tout le parcours, le bus. On faisait avec les élèves le bus. Y a beaucoup de choses qui dépendent d'une décision politique, d'un vote en assemblée, hein, y compris l'amphi ici, les chaises sur lesquelles vous êtes assis. Alors là, il y a l'État, les collectivités... Hein, les financements de l'État, des collectivités. Donc c'est important de pouvoir voir le côté pratique. Et puis aujourd'hui, il y a les grandes questions il y a les grandes questions de société, hein, la question, les questions sociales, les questions sociétales. Je vous l'ai dit, la question de l'environnement et de l'écologie. Pour moi, si j'avais, à la différence peut-être de notre génération, je pense qu'on est devant un mur. On est devant un mur que les politiques ont aujourd'hui, y compris avec l'arrivée de, n'ont pas conscience de l'importance.
Vous avez fait des colonies, vous avez été au CMEA. Est-ce que vous pouvez faire un lien, du coup, entre l'éducation populaire et la politique ?
Bah, je pense que quand j'ai fait mon stage d'animateur de centre de vacances, au CMEA, m'a proposé de faire de la formation au sein... et je dirais que là, c'est aussi un mouvement d'éducation populaire. Donc j'ai fait de la formation d'animateur de centre de vacances. À l'époque, il y avait beaucoup de professeurs des écoles, des instituteurs, où on travaillait sur un projet éducatif, et puis inspiré justement de ces mouvements éducation populaire, la forme de travail sur l'autonomie, l'émancipation, le développement culturel. Et là, effectivement, pour moi, ces dimensions-là, c'est-à-dire donner les possibilités à des enfants de pouvoir trouver du sens à des apprentissages dans le prolongement de ce qu'ils faisaient à l'école, parce que c'était bien ça, en réalité, une des réussites, en quelque sorte, de ces, et l'intérêt, ça permettait de pouvoir faire un lien entre tout ce qui est extrascolaire et l'école. Aujourd'hui, on parle de continuité éducative. On a beaucoup de difficultés aujourd'hui à mettre... Et l'importance de mon engagement au sein de cette organisation, c'est que d'une, il y avait un partage des convictions politiques, hein, et puis en même temps, un prolongement qui a contribué probablement à moyen terme à me forger des convictions, des idées sur à la fois l'idée de l'engagement, le sens qu'on pouvait donner... À l'éducation comme moyen d'émancipation de la personne, en réalité. C'est vraiment une forme de cohérence idéologique.
Comment et pourquoi vous vous êtes retrouvé en carrière sociale ?
Je pense qu'on était une génération et ça fonctionne encore comme ça, en réalité. La question, moi je trouve que c'est intéressant, on parle de l'ambition scolaire, etc. Mais comment vous construisez un parcours, quand vous devez sécuriser votre parcours, parce que nous, l'idée, c'était quand même d'être autonome. Donc moi, je me suis dit, sortant du bac, faire un DUT, si j'y arrive, je n'étais pas forcément un excellent élève. Bon, j'aurais toujours avant d'aller à l'université, je me suis dit, il faut que je consolide mon parcours. Donc avec un DUT, je pourrais trouver du travail. Donc j'ai passé mon DUT, en plus je faisais des colonies de vacances. Je ne sais pas si j'avais envie d'être animateur, mais ça a consolidé. Et en plus, carrière sociale avait une très bonne réputation. Et puis à la sortie, on pouvait trouver du travail. Et puis après, je pense que ces deux années, ça m'a donné confiance pour aller à l'université. Finalement, je suis allé, donc j'ai fait des études d'histoire. J'ai fait un mémoire de maîtrise sur l'éducation au XVIIIe siècle. Hein. Je suis toujours resté sur les mouvements. Là, on est allé à la source, hein, des mouvements d'éducation populaire. Hein. Rousseau, Voltaire, tous ces grands philosophes du XVIIIe avaient une idée de la question éducative. Et donc, j'ai fait ça. Puis ensuite, j'ai passé le concours de prof. Là encore, je me disais, est-ce que je vais le réussir ? Voilà, si vous voulez, l'ambition, c'est-à-dire les parcours se construisent au fur et à mesure... Voilà, pour moi, ça s'est construit comme ça. Mais le choix de l'IUT, c'était un choix aussi d'envie de faire de suivre cette formation, mais en même temps de sécuriser mon parcours professionnel, afin de pouvoir toujours trouver une voie de sortie si à l'université je ne réussissais pas. Pour moi, c'était quelque chose un peu d'inaccessible.
En écoutant Frédéric Thomas, on comprend à quel point l'engagement politique peut naître d'un chemin personnel, ancré dans des convictions profondes, mais aussi dans une volonté constante d'agir pour les autres. De ses débuts en DUT carrière sociale à son rôle actuel d'inspecteur général à l'éducation nationale, son parcours est celui d'un homme fidèle à ses valeurs. Le respect, l'écoute, la rigueur et surtout l'humilité.
Son expérience politique, riche et exigeante, montre que la politique n'est pas une simple affaire d'institution, mais bien une manière d'être au monde, de répondre à des enjeux concrets, parfois complexes, sans jamais renier ses idéaux. Frédéric Thomas nous rappelle que l'engagement n'est pas réservé à une élite ou à une époque, mais qu'il peut et doit être porté par chacun. Dès lors qu'on accepte de se confronter à la réalité, de dialoguer et de ne jamais cesser d'apprendre.
À travers son témoignage, c'est aussi un message d'espoir pour les jeunes générations. Celui de croire en leur capacité à faire bouger les lignes, à condition de ne jamais renoncer à leur curiosité, à leur exigence et à leur conviction. Parce qu'au fond, comme il le dit lui-même, tout ce qu'on peut faire, ce n'est jamais assez. Et c'est peut-être ça le vrai moteur de l'engagement.
99.5 FM.
Ouais, très bien.
Tu connais ?
Non, je connais pas.
Ah bah t'inquiète, moi non plus je connaissais pas.
Radio Campus Tour.com.